En fait, il a repris une vieille étude, il a recopié et puis...
On dirait du John Monet.
Et voilà, on a cité. Donc, n'allez pas voir les spécialistes, allez voir des gens qui ont choisi cette profession-là parce qu'ils avaient une ouverture vers les gens et non pas parce qu'ils voulaient se montrer et parler d'eux-mêmes.
Alors, cette chose qui est vécue, qui est intériorisée, qui est vécue comme une honte, comme quelque chose qu'on doit cacher, hein. La famille dit il faut cacher, il faut faire comme si on était un garçon, comme si on était une fille. Tu disais tout à l'heure, quand on discutait avant l'émission, tu disais que c'était extrêmement violent à l'adolescence. C'est-à-dire qu'au moment où tous les enfants vivent leur puberté, les intersexes ont une violence de plus à la puberté.
Ben, j'ai méchamment, j'ai du mal à comprendre comment on peut être un adolescent gay et mal le vivre à l'heure actuelle, parce que je trouve que la violence est bien moindre que pour une transsexuelle ou que pour un intersexe. C'est une violence extrême quand à chaque pas dans la rue, on te demande... T'es un homme, t'es une femme, t'es quoi, etc. Voilà, quoi. C'est difficile de se retrouver avec une bite et des seins. C'est difficile de se retrouver avec une chatte et des poils, quoi. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est vraiment d'une grande violence et on n'a pas de réponse. La seule réponse qu'on pourra avoir, c'est mais prends tes hormones et tais-toi, ça va marcher. Ou allez, on va couper un morceau et puis c'est bon. C'est point barre. C'est le problème n'existe pas. Il y a une négation systématique de la problématique, ce n'est qu'un problème physiologique et on sait le réparer. On sait le réparer avec la chirurgie, on sait le réparer avec les hormones, mais après, te construire ta personnalité, ne jamais savoir ou ne jamais vouloir être soit homme, soit femme, ça n'existe pas dans notre société et ça, c'est beaucoup plus violent que toute autre construction de la personnalité, même si je forçais le trait hein, en parlant des gays, hein, communauté dont je fais partie.
Je tenais juste à préciser, parce que tu as dit prends tes hormones et tais-toi, il faut aussi préciser qu'il y a des tonnes d'effets secondaires aux hormones qui sont d'autant plus mal supportés chez l'intersexe comparé aux trans.
Voilà, alors il n'y a pas beaucoup d'études, mais on a des endocrinos intelligents, je dirais intelligentes plutôt. Alors j'espère, on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler, mais que ce soit un homme ou une femme bio qui a un problème endocrinien et à qui on donne des hormones sexuelles, dites sexuelles, ou que ce soit un ou une trans, il y a eu une imprégnation hormonale dès la période dans le ventre de la mère, puis à la naissance, hein, il y a un pic de testostérone chez les mâles, hein, dès le jour de la naissance, et puis après dans la petite enfance, hein, ce qui fait dire que Freud avait raison, puisqu'on a travaillé après sur le problème des hormones, et il parle de sa période de latence, et comme par hasard, la période de latence, elle commence à la fin de la production d'hormones mâles ou femelles chez l'enfant, et puis après, ça revient à l'adolescence. La plupart des intersexes n'ont pas toutes ces imprégnations hormonales et la prise d'hormones est de ce fait très violente. Le corps et le psychique refusent complètement cette prise d'hormones parce que c'est un corps étranger, mais vraiment au sens physique du terme. C'est une bombe atomique hein, que l'on fait exploser à l'intérieur du corps et c'est une bombe psychique. Et même après des années d'imprégnation, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus difficile de supporter les hormones chimiques que pour quelqu'un qui a été imprégné hormonalement.
Alors j'avais une question, est-ce que dans ce cas-là, il ne faudrait pas plutôt envisager des dosages complètement différents, beaucoup plus adaptés, voire minimal, en fonction des personnes, et peut-être écouter comment le patient le vit, comment de façon à adapter une posologie qui lui convienne.
Voilà, alors le problème, vous le connaissez, vous, autour de la table, c'est qu'on n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques. L'une des réponses, ça pourrait être l'implant. Bon, l'implant, il est techniquement fonctionnel, hein, mais il est toujours pas en vente. Il n'y a qu'un produit retard par injection en France. Avant, il y en avait trois. Bon, heureusement, ils en ont supprimé un qui était particulièrement pourri. Mais il nous en reste qu'un, alors que dans d'autres pays, il y en a d'autres. Le patch devrait sortir, mais il sort pas parce que commercialement il n'est pas intéressant. Et après, il y a des produits qui sont pas remboursés. Donc, si on tombe sur un endocrino ouvert, on arrive à bricoler, mais après ça coûte excessivement cher et tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et si on n'arrive pas à bricoler, ben c'est son injection retard et puis on devient à long terme, pour un certain nombre d'entre nous, maniaco-dépressif au point de pas pouvoir tenir un emploi ou une vie de famille. Hein.
Est-ce que, par exemple, un truc comme l'andractim, qui est un gel, bon, évidemment, ça marche pas sur les peaux grasses, ça c'est le problème des gels, mais qui permet d'être dosé, on peut finalement le doser encore moins, il suffit de mettre moins de produits, on peut le mettre tous les deux jours, est-ce que...
L'andractim seul, a priori, n'est pas suffisant.
Ah, d'accord.
Par contre, on peut essayer de travailler sur une demi-injection tous les 15 jours, plutôt d'avoir une injection tous les 15 jours, et rajouter par-dessus de l'andractim. Il y a l'androgel qui est bien parce qu'il est immédiat, donc on peut faire ça, mais l'androgel c'est 500 balles par mois, donc
oui, tout
le monde ne peut pas se payer, non remboursé
en plus.
Moi je vais faire une transition pour qu'on arrive à la fin. Tu me disais justement auparavant que ces problèmes hormonaux, bah justement, comme ça, oui, qui est la plus importante,
on a oublié le cul.
Ces problèmes hormonaux, justement, entraînaient de grosses difficultés, comme tu l'as dit juste à l'instant même. Avoir une vie de couple, mais ne serait-ce que par ton identité, ça pose questionnement vis-à-vis de tes partenaires. Comment ça se passe?
Alors bon, moi je suis pas représentatif.
Non, on parle que de toi.
Loin s'en faut. Donc si vous voulez qu'on parle de moi, on parle de moi. Moi je dirais que j'ai la chance d'être né avec une bite, que ma prostate s'est développée quand on m'a donné les hormones mâles, et que donc j'ai un aspect extérieur mâle tout à fait classique. Donc même si je me perçois ni comme homme ni comme femme, je peux jouer le rôle d'homme quand j'en ai envie et me percevoir différemment quand j'en ai pas envie. Donc si j'ai envie d'aller au sauna, je serai un gay. Si j'ai envie d'être femme chez moi, je serai femme chez moi. Et si j'ai envie d'être père de famille, ce que je suis encore, hein, puisque j'ai 4 enfants, je suis papa et ça pose aucun problème, puisque je suis crédible, quels que soient les rôles que je choisisse, je suis crédible. Après, pour ce qui est de la sexualité en tant que telle, je crois qu'on a la chance et la difficulté de devoir se créer une sexualité, puisque on rentre d'emblée dans la sexualité avec la première injection d'hormones. Au départ, on a beau savoir que les abeilles fécondent les fleurs, etc., c'est un monde complètement différent, hein, qui n'existe pas. On est sur une autre planète. On n'a pas du tout conscience de ça, même si on le voit. C'est pour nous un monde complètement à part. Donc on se crée une sexualité, ce qui permet probablement d'avoir moins de tabous, moins de difficultés, et plus probablement d'ingéniosité, et ça donne une liberté plus grande. Et puis il faut dire que pour les hormonothérapies mâles, ça donne une libido décuplée, donc ça permet aussi pas mal de choses intéressantes.
Mais tu me disais justement par ailleurs que dans la mesure où tu ne t'identifies ni comme un homme ni comme une femme, ça posait problème plus ou moins vis-à-vis des partenaires que je rencontre moi aussi sur comment l'autre se définit finalement, si moi je me définis pas.
On est constamment dans le questionnement du genre de l'autre. Nous n'avons pas de problème de genre. Mais alors là, c'est exactement pareil que pour les trans. Hein. Nous n'avons pas de problème de trans. De genre. De genre. Oui, là, ce sont en face de nous, on interroge le genre des autres et là, c'est compliqué. Alors si je vais dans un bordel et que je saute un mec, pas de problème, il me perçoit comme un gay et puis il s'en fiche, ce qui l'intéresse, c'est la taille de ma bite au mieux. Et sinon, c'est. Voilà. Si à l'inverse, j'ai un rapport comme ça avec une femme, ce qui l'intéresse c'est qu'elle se fait sauter par un mec et puis c'est tout, quoi, ça va pas plus loin. Par contre, à partir du moment où je veux créer une relation amoureuse, là c'est plus compliqué, parce que si c'est une relation hétérosexuelle, la femme aura moins de difficultés, elle a moins besoin de mes expériences, hein, elle a moins besoin de d'identifier l'autre comme étant un mâle. Et elle est moins intéressée par la bite, d'une façon générale. Hein, mais je vous parle, moi, de mes expériences. Hein, je ne veux pas généraliser. Par contre, si je veux créer une relation amoureuse avec un gay, j'interroge alors véritablement sa masculinité, sa féminité, qui il est, etc. Et nécessairement, à un moment donné, il va considérer soit, ok, t'es né intersexe, mais bon, quand je te regarde, t'es un mec, hein, t'as une vie, t'as des couilles, t'as une prostate, t'as des poils, tu traces le matin, t'es monsieur, et puis c'est tout. Et là, à ce moment-là, c'est moi qui vais pas résister à ça, qui vais lui dire, mais non, tu me vois comme ça, mais je ne suis pas ça, et accepte-moi tel que je suis. Et là, j'ai pas encore trouvé la personne qui m'accepte tel que je suis. C'est la grande difficulté d'une relation entre un gay, donc un homme biologique, et un intersexe gay ou homo ou PD, comme on veut.
Tu voulais nous parler du massage prostatique ?
Pas du tout. je trouve, en revanche, absolument fondamental ce que tu nous dis là sur le fait que s'il y a bien une chose, on parlait de savoir s'il y avait des choses communes entre les trans et les intersexes. Probablement que ce qu'il y a de plus commun entre les trans et les intersexes, c'est qu'on questionne le genre de l'autre.
Tout à fait.
Que nous, on peut être parfaitement en paix avec ce que l'on est. On est obligé d'être conditionné par le regard de l'autre.
On questionne le juridique, on questionne le social, on questionne la sexualité, on questionne tout. On est au centre de tout. Bon, alors après, on nous dit que le trans est égocentrique. Certainement que l'intersexe aussi. Mais véritablement, on questionne tout le monde, oui. Malgré nous, on questionne tout le monde.
On pose pas. Nous pouvons avoir une. On a survécu. Si
je comprends bien, on a survécu.
Soit l'assignation, on va dire parfaite pour enfin la plupart des personnes trans. Je n'avais pas. Enfin, on n'a pas identifié de problématique visible. Hein, et c'est vraiment une rébellion, quelque chose qui est violent. Les intersexes ont quelque chose, ont parfois une justification, et encore tu le disais, pas toujours une justification organique ou génétique à produire la société. Mais en tout état de cause, la construction de l'intersexe, la construction de la personne trans, soit elle se fait dans le binarisme et ça pose de toute façon un problème, soit. Et de toute façon, si elle ne se fait pas dans le binarisme, je veux dire, c'est l'ensemble des partenaires qu'on a, et notamment dans la sexualité, mais pas que dans la sexualité, j'imagine. Je veux dire, dans toute relation amicale aussi, je veux dire, ça perturbe
moins
le genre des autres.
Moins dans la relation amicale. Moins dans la relation. C'est vraiment. Mais je crois que de toute façon, enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Hein, la sexualité est au cœur de la révolution. C'est la révolution viendra par la sexualité.
Qui a révolutionné.
Mais oui, tout à fait.
La sexualité est encore plus énorme.
C'est la révolution sexuelle de Wilhelm Reich.
Donc voilà, c'est notre sexualité qui avant tout interroge le genre, interroge l'autre, et voilà quoi. Combien on a de braves hétéros qui ont envie de se faire enculer.
Bonne question.
Ah bah, je pense que c'est une majorité. Moi, je voulais savoir, parce que j'en vais terminer, est-ce que tu dirais, je te l'ai déjà posé, mais tu vas y répondre, est-ce que tu dirais intersexe et fier ?
Fier en tant que tel, non. Moi, je suis amoureux fou de la vie, ça c'est une évidence. Je suis pas fier d'être ce que je suis moi-même, et je suis heureux. Mais non, on en a parlé un peu longuement l'autre jour, oui. Moi, j'ai du mal à avoir de la fierté. Je suis peut-être plutôt, c'est à la mode, je suis peut-être plutôt dans la résilience que dans la fierté, dans le combat.
C'est ton côté bambou.
Mon côté bambou, oui.
Par contre, tu n'es pas dans la honte.
Ah non, absolument pas. Non, tout le monde est au courant de ce que je suis. Je le vis au grand jour, et je suis dans la norme.
L'assumation tranquille.
Tout le monde. Ah oui, complètement. Et je suis en accord avec moi-même. Alors, si j'avais pas de problèmes liés au traitement, moi je suis plus heureux des personnages.
Hein. Des individus.
Merci Vincent Guillaume. Merci à tout le monde. Merci.
On va peut-être vite faire appeler.